News FM.
News FM, à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk.
Monte le son.
Salut les amis, nous sommes en direct sur News FM. Je m'appelle Amine et je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de Open By. Open By, qu'est-ce que c'est ? Open By, c'est votre nouvelle émission qui vous permettra de répondre à la question « C'est quoi les bails ?» Autrement dit, quoi de neuf sur Grenoble et ailleurs ? Ouverture d'esprit, partage, bienveillance, curiosité, telles sont nos valeurs. Comme tous les jeudis, pour m'accompagner tout au long de ces 45 minutes d'émission, Mathilde est avec nous. Comment ça va Mathilde ?
Ça va très bien et toi ?
Ça va toujours, comme un jeudi, tu le sais. La semaine dernière, tu nous as émus avec ton récit d'une histoire d'amour tragique en Inde. Est-ce que tu veux nous dire de quoi tu vas nous parler cette semaine dans ton instant narration ?
Là, on va changer de continent, on va partir aux États-Unis. Bon, c'est toujours un sujet assez triste, hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. Ça parlera d'une fusillade aux États-Unis, pardon, et je prendrai la place d'une élève qui va vivre la fusillade et il y aura une petite partie éloquence, vu qu'on est sur le thème éloquence cette fois-ci.
Absolument, un sujet en rapport avec l'actualité récente, qui sera sans doute passionnant. Tout à l'heure, dans mon instant éloge, ma vision de l'actualité des médias, je vais vous parler des chaînes d'information. Enfin, je ne vous dis pas tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on ne va pas parler pour ne rien dire. D'ailleurs, certains feraient mieux de ne rien dire du tout. Ce n'est pas le cas de notre invité ce soir. Comme dirait Philippe Candeloro, c'est un très grand discoursman superstitieux. Pour se hisser dans les cimes du concours international Eloquentia, il a porté à chaque étape les mêmes bretelles, le même t-shirt et les mêmes chaussettes. Ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Il fait la fierté de Grenoble avec son éloquence et sa théâtralité. Et il est désormais le deuxième meilleur orateur de France. Et c'est normal, tant il nous impressionne par sa manière de peindre la réalité de notre monde. De ses discours, parfois aussi, on en rit. C'est sans doute pour cela que ses parents l'ont appelé Mathis. Mathis Druel est notre invité ce soir dans Open By.
Pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique.
Simple, basique. Basique, ok. Vous n'avez pas le droit de ne pas aimer quelqu'un qui se noie. Simple, on paye tous des impôts pour aider à vivre ceux qui ne le peuvent pas. Basique, on peut être condamné pour une assistance à personne en danger. Simple, la solidarité est un devoir. Ouais, tout cela n'est qu'évidence.
Salut Mathis.
Salut Amine.
Comment ça va ?
Eh bien, un petit peu stressé et en plus, j'ai toujours du mal un petit peu à m'entendre, donc un petit peu compliqué, mais très content d'être ici.
Eh bien écoute, on est hyper heureux de t'accueillir ici. Alors malheureusement, on va t'entendre un petit peu, puisque c'est la radio.
oui, c'était le fait d'entendre mon discours. Mais oui, complètement, très content d'être ici.
T'as impressionné beaucoup de monde avec ta prestation lors de la finale internationale d'Eloquentia, c'est ce qu'on vient d'entendre. La question c'était, la solidarité est-elle un devoir ? C'est bien ça ?
Oui, exactement, je devais le défendre à la positive.
Tu devais défendre la positive, et quand on a préparé l'émission avec Mathilde, quand on a parlé un petit peu, on a écouté ta prestation de finale. Pardon pour la qualité du son qui était son de téléphone portable, on n'a pas encore trouvé la prestation officielle qui va bientôt arriver sans doute sur les YouTube et autres réseaux sociaux. Pourquoi ? Simple, basique, Orelsan.
Eh bien, justement, parce qu'à la base, j'avais écrit quelque chose de beaucoup trop compliqué et je me suis fait la remarque qu'il fallait simplifier. Et notamment parce que quand on lit ce sujet, il y a très peu de gens qui vont se dire « Ah non, vraiment, je veux prendre la négative sur ce sujet, je ne suis pas du tout d'accord, il ne faut pas être solidaire. » Et donc, comme ça semblait très simple et très évident, la chose sur laquelle je voulais me baser à la base, mon premier argument, c'était de dire « Vous le savez déjà, d'ailleurs, c'est un devoir légal. » Et donc, le simple, basique est arrivé un petit peu tout seul. Mais, enfin... L'idée est arrivée tout seul. Après la réalisation, je vous avoue que je l'ai pas mal bossé parce que j'avais jamais rappé de ma vie et j'ai appris après coup que j'allais le faire devant Kerry James, donc je l'ai rebossé parce que vraiment, il fallait assurer.
Bah écoute, t'as été assez impressionnant et puis même quand j'ai réalisé le mashup avec la musique, ça s'accordait extrêmement bien, donc bravo à toi. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste les concours d'éloquence ? Tu es également le président, on rappelle, de l'association d'éloquence de Sciences Po, puisque tu es étudiant là-bas.
C'est ça. Alors en fait, les concours d'éloquence, c'est très différent d'un concours d'éloquence à l'autre, mais le principe à la base, c'est on a un sujet sur lequel on a un temps de prise de parole de quelques minutes. Ça peut aller de 4 minutes à environ 10 minutes en fonction des concours. Et on doit défendre un point de vue, qu'importe lequel il est, qu'importe la formalité. Il y a des fois où ça va être très, très formel, très juridique. D'autres fois, ça va être beaucoup plus artistique. Enfin, ça dépend, mais en gros, défendre un point de vue, venir prendre la parole et essayer de capter l'attention de l'auditoire durant toute notre prise de parole.
Et du coup, tu as participé à beaucoup de nombreux concours d'éloquence. Est-ce que tu sais combien tu en as gagné ? Modestement, bien sûr.
Alors, comme j'en ai pas, enfin j'en ai gagné deux, du coup c'est facile à compter. Mais enfin, du coup ça va. Mais oui, j'ai participé à beaucoup de concours, beaucoup d'événements liés à ça. Et oui, plus que le fait d'en avoir gagné certains, c'est le fait d'en avoir participé à beaucoup qui moi me fait très plaisir.
Mathilde.
J'avais une question. Est-ce que tu as fait le concours Quintilien aussi ?
Oui, j'ai aussi fait le concours Quintilien l'année dernière.
Et est-ce que c'est très différent de Eloquentia ou pas spécialement ?
Alors, la forme est assez différente parce qu'on ne nous donne pas 10 minutes pour démontrer un point. Mm-hmm. C'est-à-dire que Eloquentia, il nous demande réellement de démontrer un point quand on commence. On nous envoie un PDF d'une quinzaine de pages qui nous explique les différentes formes du discours, comment convaincre, persuader. Quintilien, on nous donne juste un sujet et puis on se débrouille. Donc un petit peu différent et notamment avec des discours plus courts. Après, dans l'ensemble, ça se ressemble quand même, puisqu'au final, le cadre d'essayer de convaincre quelqu'un pour rester dans le sujet, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, on retourne un petit peu sur des formes pareilles. Je sais qu'au Quintilien, moi, j'ai fait des formes un peu plus théâtrales qu'à Eloquentia. Mais oui, ça se ressemble beaucoup, globalement.
D'accord.
Et bien, justement, on va en parler parce que tu nous as expliqué avant l'émission que tu allais préparer un seul en scène. Tu confirmes cette information ?
Je confirme cette information.
Donc, dans ton seul en scène, de quoi tu vas nous parler exactement ? Quels sont les thèmes que tu vas aborder ?
Eh bien, histoire de changer, ça va parler de moi. Mais plus globalement, les chroniques d'un homme seul, enfin c'est la relation épistolaire d'une personne avec elle-même et voilà, d'une personne qui se cherche en quête d'identité, en quête de ce qu'elle veut faire et en quête d'elle-même plus globalement.
D'accord, très bien. Et ok, et est-ce que tu te trouves finalement à la fin ou est-ce que ton personnage te trouve?
Il trouve des réponses, ou plutôt un cycle de réponses. Et voilà, et puis il espère aussi qu'en parlant de lui-même, il parlera des autres.
En quoi est-ce que c'est ce personnage ou ce que tu vas incarner, en quoi est-ce que c'est toi et en quoi est-ce que c'est différent de toi et en quoi est-ce que tu prends des libertés par rapport au personnage que tu joues ?
Et ben en vrai, j'en ai pris assez peu parce que quand j'avais envie d'écrire un seul en scène, de jouer une pièce où voilà, je suis sur scène pendant 1h10, 1h20. Et ce qui m'est venu, en fait, c'est ce qui me venait à chaque fois que j'écrivais et que je n'osais pas du tout assumer. C'est des parties de moi-même et de certaines choses qui étaient assez compliquées et qui revenaient à chaque fois et qu'à chaque fois je censurais. Et du coup, je m'étais arrêté d'écrire, entre autres, pour ça, avant de me remettre à l'éloquence.
Ouais.
Et là, voilà, j'ai osé, en tout cas, les coucher sur papier et voir. Et donc, voilà, oui, non, c'est parce que j'avais, en fait, entre guillemets, pas le choix. C'est ce qui sortait de moi, les seules choses que j'arrivais à écrire principalement.
Formidable. Et dans ce seul en scène, il y aura ton propre portrait chinois.
Oui, en effet.
Et c'est une heureuse coïncidence parce que tout ce qui est portrait chinois, on connaît bien ici. Alors Mathis, on va te proposer notre propre portrait chinois. Alors peut-être que certaines questions seront dans le seul en scène que tu prépares, peut-être que certaines n'y seront pas. Ce sera l'occasion un petit peu de tester tes blagues et autres répliques.
On va voir, du coup j'ai énormément la pression, il faut que je réponde des trucs pertinents à chaque réponse.
Suis ton cœur, tout simplement. Allez, si tu étais un livre.
Je serais Des fleurs pour Algernon de... j'ai perdu le nom de l'auteur. Des fleurs pour Algernon.
D'accord, comme je ne connais pas ce livre, je ne pourrais
oui.
pas. Mathilde, tu connais, non?
Non, je connais pas.
Un livre qui parle d'une personne déficiente mentale à qui on fait une expérimentation. Et elle va devenir l'une des personnes les plus intelligentes de l'humanité grâce à une modification de son cerveau. Et on suit son journal intime.
D'accord, ok.
Ah, c'est intéressant.
Ce qui n'est pas absolument pas inspiré de ta propre histoire, bien évidemment.
Absolument pas.
Mathilde, tu veux proposer un portrait chinois ?
Oui, bien sûr. Mathis, si tu étais une émotion, tu serais laquelle ?
Bonne question. Je serais l'anxiété.
L'anxiété ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que je crois que c'est l'une de celles qui revient le plus souvent chez moi pour beaucoup de choses, mais dans des cas de positifs et des cas de moins positifs, mais je suis quelqu'un de très anxieux, donc c'est la première qui m'est venue.
D'accord.
Si tu étais une mauvaise habitude, Mathis ?
La procrastination.
Ah ?
Ah oui, clairement, je suis procrastinateur hors catégorie. Donc,
y compris pour préparer des discours d'éloquence ou pas ?
Y compris pour préparer des discours d'éloquence, pour les apprendre aussi. Celui de la finale d'éloquence à Grenoble, je l'ai appris le matin même.
Donc, eh ben écoute, ça ne s'est pas vu en tout cas.
Chouette.
Mathilde.
Si tu étais une chanson, ce serait laquelle ?
Bonne question. Je dirais qu'en ce moment, je serais Guns for Hand de 21 Pilot, mm-hmm. qui est une chanson qui, sous des airs extrêmement, extrêmement joyeux, extrêmement enjoué, parle de dépression et de réflexion sur le suicide. Et c'est une chanson qui est extrêmement belle en termes de musique, en termes de paroles. Il y a une vraie poésie. Et j'aime bien l'ambivalence dans les lectures qu'on peut avoir sur cette chanson.
D'accord, c'est très intéressant. Ça tombe bien, on ne l'écoutera pas.
Non mais...
Tout de suite, un non-extrait.
Exactement. Ça, je l'aime bien. Si t'étais un gros mot, tu peux tout dire. Hein.
Putain, parce que c'est extrêmement. On peut l'utiliser pour à peu près tout. Et d'ailleurs, ça peut devenir une forme de ponctuation. Ça devient une virgule en fait. On dit putain et il y avait pas vraiment de raison. Et on l'applique pour tout. Et en français, c'est vraiment. Vraiment très répandu.
C'est ça, oui, effectivement, c'est devenu une ponctuation plus qu'un gros mot ou un qualificatif pour des péripatéticiennes.
Exactement.
Mathilde,
J'en ai une que j'aime bien. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel?
Bonne question. Je dirais pouvoir lire dans les pensées des gens. Parce que c'est plus simple que de comprendre par les codes sociaux ou par ce qu'ils nous envoient, de comprendre les messages qu'ils essayent de nous transmettre. Plus que pour essayer de m'introduire dans les pensées des gens. Essayer juste d'être sûr que j'ai bien compris ce que les gens me disent ou me communiquent.
D'accord.
C'est intéressant, c'est aussi lié à, peut-être à l'anxiété dont tu parlais tout à l'heure. Un petit peu peut-être, non?
Oui, complètement.
J'en parle dans le podcast Lors du temps d'Ulysse Herriot. On aura l'occasion de le réévoquer tout à l'heure.
Oui.
Une petite dernière. Mathilde, tu veux en faire une dernière?
Tu peux la faire si tu veux.
Allez, je la fais. Si tu étais un pays.
Oh, super difficile.
En plus, la musique se coupe maintenant, c'est parfait.
Ah oui, c'est vraiment d'un coup.
Ça m'a
boum.
Stress.
Un instant très sérieux. Je sais pas, je serais un petit pays, un petit, genre Malte ou quelque chose où on n'est pas exactement sûr de où le placer, on sait pas où. Voilà, juste le Liechtenstein ou voilà, un état où on est en mode. Ouais, j'ai déjà entendu le nom, mais je sais plus exactement quoi. Juste pour être une curiosité géographique.
Voilà, mais évidemment, Malte et le Liechtenstein sont évidemment des pays que la plupart des gens connaissent pas, mais que les gens très riches connaissent bien. Où on y retrouve beaucoup d'argent et
ce
beaucoup
n'est
de.
C'est pas chose. Un hasard.
Coïncidence, j'aime pas. D'ailleurs, t'aimes bien voyager?
Oui, plutôt, oui.
Ouais, il y a des pays que. T'ont particulièrement marqué en matière de voyage ou dans lesquels t'aimerais bien aller prochainement?
Très bonne question. On va pas faire très original, mais je vais dire l'Angleterre. Ouais. Parce que j'y étais dans différents cadres. J'ai passé un an d'Erasmus là-bas et avant j'avais été en voyage. Et ouais. Parce que j'y ai vécu des choses très contradictoires et notamment je l'ai vécu en tant que touriste puis en tant qu'habitant de ce pays. Donc ouais. Ce pays-là m'a particulièrement marqué.
T'étais où en...
J'étais à Coventry, qui est à côté de Birmingham, qui est la deuxième ville d'Angleterre.
Ok, formidable. La Suède, ça t'a jamais tenté comme pays?
Si, ça me tente complètement, mais j'ai encore jamais eu l'opportunité d'y aller.
Parce qu'il y a deux personnes là-bas que tu connais bien, qui ont tenu à te faire une petite dédicace.
Il nous est plus facile de balancer des infos sur toi, Amine, avant le podcast, que d'écrire une dédicace pas trop gênante.
Donc on va seulement dire ces quelques mots-clés.
De colombes, la poule, Noël, il pleut, Quentin, pastèque, samba, sexe, sobriquet, qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, basique, bilboquet.
Excellent, ok. Il y avait tellement de références dans chacun des mots que j'avais un temps de décalage sur les mots, mais ok, trop bien.
Tu veux nous expliquer quelques mots dedans? À part le mot bilboquet, qu'on expliquera tout à l'heure.
Ok, alors à part le mot bilboquet, ces serpents qui sifflent sur vos têtes, c'est un vers de Racine, si je ne dis pas de bêtises, qui revient, enfin, que j'ai fait revenir régulièrement dans mes discours et qui a été par là que j'ai commencé à faire des assonances et des allitérations. Donc à savoir des phrases où il y a une sonorité, que ce soit des consonnes ou des voyelles, qui se répètent énormément. Et donc, non, ces serpents qui sifflent sur vos têtes, qui est une phrase qui siffle énormément.
Effectivement, c'est.
C'est une bonne remarque.
C'est très fan. Oh, non, mais c'est bien, c'est très intéressant. On monte en niveau. Donc, c'est vrai qu'on a remarqué que t'aimais bien tout ce qui était allitération, assonance. Ça, dans le seul en scène que tu prépares, il y aura de... Comment tu vas l'écrire?
Eh ben, bonne question. Alors, comme il est quasiment fini, je vais dire comment je l'ai. Waouh. Je sais pas si
déjà. Thomas, tu vas pouvoir tout nous raconter.
Oui. Il y en a certainement. Je ne me souviens pas si j'en ai mis. Je sais que c'est pas en général un objectif. C'est juste ça vient des fois ou certains moments ou quoi. Des exercices sur la forme, mais. Oui, il y aura très certaines. Bon, me connaissant, je sais qu'il y a des jeux de mots dedans, qu'il y aura des jeux sur la forme. Après, je crois qu'il y a moins de travail sur. Enfin, il est moins mis en forme que mes discours jusque-là, parce que notamment, il y a beaucoup plus un côté raconter une histoire, parler de certaines choses. Et donc, voilà, il y aura des allitérations et des assonances, mais pas que.
Est-ce que ce sera comique, tragique, un peu des deux?
Alors, sûrement un peu des deux, un peu de tout. C'est-à-dire que oui, il y aura sûrement des touches, enfin, en tout cas, je l'espère, des touches qui sont drôles dans la narration. Mais le but premier est vraiment de raconter une histoire. Et donc, l'humour qu'il y a par moment est un moyen de raconter cette histoire, mais c'est pas le cœur. Le but est pas de faire rire, le but est de raconter l'histoire en question.
D'accord, ok. Mathilde, tu as une question?
Oui, j'en ai une. Pour moi, l'éloquence, c'est un peu relié au théâtre. Je sais pas si tu es d'accord avec ça.
Complètement.
Et est-ce que tu aimerais vivre du théâtre plus tard?
Alors oui, j'adorerais vivre du théâtre, j'adorerais être un artiste, mais oui, complètement, j'ai très envie de pouvoir faire ça, et c'est entre autres pour ça voilà, que j'essaye de monter différents projets théâtraux à côté.
C'est bien. Et du coup, l'éloquence, tu t'y es mis réellement récemment, mais est-ce que tu as fait du théâtre étant plus jeune ou pas spécialement ?
Alors, j'ai fait 4 ans de théâtre quand j'étais au collège, dans un théâtre près de chez mes parents. Et j'ai arrêté pour des raisons un peu pas très intéressantes, de raisons pratiques, de un entraînement de sport au même moment. Et puis, quand je suis arrivé à Sciences Po Grenoble, j'ai découvert l'éloquence par le hasard d'une brochure qui décrivait les différentes associations. Je me suis dit, pourquoi pas, autant se présenter. Mm-hmm. J'y suis allé, j'ai fait mon premier discours un peu par hasard. Et puis ça m'a plu et j'y suis retourné et je me suis mis à me rendre compte que bah, j'adorais la scène, que je sais pas pourquoi j'avais arrêté ça, qu'il n'y avait pas trop de raisons et que j'avais envie de reprendre. Donc j'ai continué à fond l'éloquence, je me suis remis à faire du théâtre à côté, ouais. L'année dernière, et je me suis remis également à écrire.
Si je te dis, Mathis, juré numéro 6, ça.
Oui.
Tu penses à quoi?
Alors je pense à 12 hommes en colère, qui est la pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué l'année dernière avec l'association de théâtre de Sciences Po Grenoble,
ouais.
Et dans laquelle je jouais justement le juré numéro 6.
Le juré numéro 6 qui est un ouvrier, je crois.
C'est un ouvrier, oui, ouais. un peu simple. Qui se retrouve. Alors, 12 hommes en colère, c'est un jury populaire aux États-Unis qui doit décider de la condamnation à mort ou non d'un jeune homme de 16 ans pour un meurtre avec préméditation. Et la pièce s'ouvre sur les. Il y a 11 jurés qui pensent que ce jeune homme est coupable et qu'il faut l'envoyer sur la chaise électrique. Et il y en a un qui a des doutes et qui veut parler. Donc la pièce s'ouvre sur ça et moi, ouais. Du coup, je joue le juré numéro 6. Oui.
D'accord, ok. Ça t'a plu de jouer ça ?
Oui, énormément. Énormément. Mm-hmm. Mais notamment parce que c'est un huis clos. Et donc, un huis clos à 12, c'est extrêmement intense et c'était vraiment une super expérience.
Ok, ça marche. Mathilde.
J'ai une autre question pour toi. Bon, c'est un peu moins porté sur l'éloquence, mais quelles sont tes références humoristiques ?
Eh bien, bonne question. Alors, il y a 2 semaines, j'ai quelqu'un qui m'avait posé la question et je sais que j'ai eu énormément de mal à y répondre. Donc, j'ai un peu plus réfléchi après et je me rends compte que je vais quand même avoir du mal. Mais j'adore vraiment ce que fait DeVos pour ses jeux avec la langue. C'est vraiment un de mes humoristes préférés, j'adore ça. En ce moment, j'aime beaucoup Guillermo Guise,
ouais.
Marina Rollman. Dans le stand-up récent, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête là qui me vient. Mais oui, pour notamment qui font des chroniques sur France Inter pour le débit de blagues qu'ils sont capables de balancer et leur capacité à créer vraiment dans leurs chroniques, ils ont créé des univers et où y a des blagues qui reviennent régulièrement et l'accumulation fait qu'on n'a même pas le temps de respirer et c'est extrêmement drôle et c'est disponible sur YouTube donc ceux que ça intéresse, c'est génial.
On invite nos auditeurs à écouter les rubriques humoristiques de France Inter. Tu parlais de Raymond DeVos, je te propose d'écouter un extrait de son sketch « Parler pour ne rien dire ». C'est parti.
D'ailleurs, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que pour rester dans le vent, je vais parler pour ne rien dire. Non, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh ben non, mesdames et messieurs, ah non. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres.
Tu as reconnu le sketch ? Peut-être que tu l'avais déjà entendu ?
Oui, complètement. Bah, c'est un de ces très grands sketchs. Donc oui, bien sûr, je l'ai reconnu. Je l'ai regardé des dizaines de fois sur YouTube et j'adore ça.
Tu sais de quand date le sketch ou l'extrait qu'on a passé, en tout cas ?
Oh, ça doit être vieux. Ça doit être les années 70, je crois.
C'est ça. C'était en 1971, c'était à Marseille, à l'enregistrement qu'on a écouté. Et c'est ce qu'on vient d'entendre là fait vraiment écho à ce qu'on peut entendre actuellement. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, complètement. C'est son art par la façon dont à la base il essaye juste de jouer sur les mots et de réfléchir sur les expressions françaises et comment amener un maximum de jeux de mots et faire tourner tout un sketch autour. Mais où du coup il se met en fait à évoquer des thèmes qui sont extrêmement d'actualité, comme là le fait de ne pas aller pour rien dire et vouloir que ça se sache.
Absolument. On va en parler dans notre instant éloge, à moins que Mathilde ait une petite question.
Non, moi c'est bon.
Eh ben c'est bon. Toutes les questions sont posées. Alors on va donc passer à l'instant éloge. L'instant éloge, ma vision perso de l'actualité des médias. Et justement, on évoquait l'idée de parler pour ne rien dire. Voilà bien le propre d'une chaîne d'information. On y bavarde beaucoup, on y hurle parfois. Sur le fond, on n'en retient rien et tout le monde s'en fiche. Mais je vais vous donner les recettes pour faire de l'audience pour pas cher sur une chaîne d'info. Le principe de la recette est assez simple. Un, inviter des chroniqueurs et des journalistes dont les opinions sont facilement identifiables et si possible, qui n'hésite pas à parler plus fort que les autres et sur les autres. 2. Choisir un animateur qui se fiche royalement de ce qui se dit dedans, ou au contraire, qui n'hésite pas à prendre part au débat lui-même. 3. Lancer des sujets racoleurs, putaclic, ou au moins des discussions sur lesquelles on peut avoir une opinion à l'emporte-pièce, sans avoir travaillé. Laisser mijoter le clash. Ping ! C'est prêt. Tam, tam. Voilà donc votre sortie polémique de la semaine. Elle est toute chaude. Bien évidemment, le clash sera servi comme sujet de débat aux autres émissions de la chaîne et du groupe de médias auquel vous appartenez. Les avantages de la retraite, de l'audience, ce qui reste à relativiser toutefois, parce que par exemple, Éric Zemmour, qui a doublé l'audience de CNews entre 19h et 20h, est littéralement 15 fois moins regardé à la télé que N'oubliez pas les paroles sur la 2 ou Demain nous appartient sur la 1. Autre avantage, du temps. Et oui, parce que sur une chaîne d'info, si vous passez le journal en boucle, une fois que le journal est fini, les téléspectateurs, et on va pas rester à regarder les mêmes infos dans le journal de la demi-heure suivante. Alors que les débats, une heure et demie, deux heures, on peut les étirer longtemps. Et enfin, dernier avantage, de l'argent. Un débat, ça coûte pas cher. Le plateau, vous l'avez déjà. Vous avez juste à payer des chroniqueurs, et encore, vous êtes même pas obligé de tous les payer. Les désavantages de la recette, une image très écornée, et le risque accessoire que vos journalistes se fassent alpaguer, violemment, dans une manif de gilets jaunes. Et, autre inconvénient, les risques, qui restent très modérés, de sanctions de la part du CSA, le régulateur des médias. Alors justement, qu'est-ce qu'il en dit le CSA ? Roch-Olivier Maistre, le nouveau président de l'institution, en parlait dimanche dernier sur France Culture dans Soft Power.
J'ai regardé par curiosité la semaine dernière. La plupart des signalements qui nous sont faits de clash, pour reprendre votre expression, concernent LCI et CNews. Donc c'est bien le signe que ces deux chaînes qui sont en concurrence frontale et qui perdent de l'argent sont dans une stratégie de rechercher le show, le spectaculaire.
Et oui, perdre des millions d'euros chaque année pour proposer des débats aussi inutiles, vive la France. Mathis, ça t'inspire une réaction? Non mais ça va là, oh, il y en a marre. Oh, tout le temps vous criez, c'est insupportable. On peut plus faire, attendez, là j'ai le truc en direct là. Là, vos invités qui vont s'y faire, il y en a marre, là, c'est insupportable. Oh,
pardon.
C'est mieux. Attendez, excusez-moi, je crois que je me suis un petit peu emporté. J'avais un truc sur le bide là, sans doute la recette de tout à l'heure. Mathilde est plié en deux.
Non, normalement c'est bon là, avec ça t'as le bad buzz, c'est le moment où on est invité sur LCI et CNews avec ça.
D'ailleurs, je cite, on a tous des amis qui pètent et rotent à un dîner, mais ce sont nos amis. C'est ce qu'aurait expliqué le directeur de la rédaction de CNews au sujet de son animateur de débat Pascal Praud, que je viens d'imiter de manière tout à fait exceptionnelle.
Absolument parfaite.
Merci. Je précise que la petite information a été chinée sur le site des Jours. Non mais Mathilde, tu rigoles, mais pourquoi tu rigoles? On n'a pas le droit de roter, de lâcher des caisses à la radio? À mon avis, il y a une petite fenêtre d'Overton à élargir ici. Et ça, c'est le formidable Clément Viktorovitch qui l'explique très bien dans Clic. C'était le 6 novembre dernier à propos de la polémique sur Julie Graziani.
L'idée de la fenêtre d'Overton, c'est qu'il y a un ensemble d'opinions qu'on peut assumer dans les médias, en public, sans être immédiatement disqualifié. Ce qu'il y a derrière, et ça c'est important, c'est que cette fenêtre, on peut l'élargir, on peut travailler à l'élargir progressivement. Et en élargissant la fenêtre d'Overton, une idée qui semblait auparavant radicale, extrémiste, excessive, elle peut soudain sembler parfaitement modérée au regard d'une autre idée nouvelle qui serait plus radicale encore.
Le problème de cette fenêtre d'Overton, c'est qu'elle normalise des situations et des propos qui ne devraient pas l'être aujourd'hui. À l'heure où pour les Français la télévision est de moins en moins crédible, à l'heure où elle reste toutefois le premier moyen de s'informer, surtout auprès des moins diplômés et des plus âgés, à l'heure où Internet fait face au paradoxe de nourrir cette usine à clash et d'offrir la liberté de proposer des formats plus longs et vraiment intéressants, je pense notamment à Thinkerview, je crois qu'il est temps pour chacun d'entre nous surtout d'éteindre la télévision et de reprendre une activité normale. Allez, à ciao, à tout de suite. Voilà, Mathis, est-ce que pour cette fois-ci tu as une réaction? Est-ce que le sujet t'intéresse?
Je sais pas, est-ce que je vais me faire engueuler encore ou pas?
Non, cette fois non.
Ça va. Je suis complètement d'accord et j'avais beaucoup apprécié cette chronique de Clément Viktorovitch à ce sujet. Et il y avait notamment d'autres analyses qui avaient été faites pour qui expliquaient que ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est ouais. Que cette fenêtre d'Overton, elle est ouverte d'un certain côté politique plutôt que l'autre. C'est beaucoup plus des éditorialistes.
Plus de droite.
Là, voilà, je la garde amie, c'est une proche de Marion Maréchal Le Pen.
C'est
donc,
ça.
La droite de la droite, on va dire, à l'extrême droite. Et qu'à gauche, c'est très peu le cas et que sa stratégie est très peu mise en place ou alors très peu efficace, on ne sait pas. Mais donc, oui, il y a une vraie couleur politique dans actuellement comment cette stratégie est mise en place dans les médias.
C'est très intéressant, en effet. Et j'aurai l'occasion d'en reparler la semaine prochaine dans la chronique où on parlera justement des différentes techniques dans les débats pour permettre d'orienter le point de vue d'une certaine façon. Il y a différentes techniques qu'on expliquera, hein, le fait de de mettre 10 gens de droite et une personne de gauche, parce qu'il faut bien un quota.
Très important,
ou de mettre une personne de gauche qui est peut-être moins charismatique que la personne de droite. Il y a plein de techniques dont on parlera la semaine prochaine. Du coup, tu es étudiant à Sciences Po, on m'a dit que tu t'intéressais à la communication politique, c'est vrai?
Oui, effectivement.
Pourquoi ça t'intéresse?
Très bonne question. Eh bien, parce que tous les enjeux de communication me plaisent énormément, notamment via l'éloquence, mais tout le reste, toutes les stratégies qui peuvent être mises en place autour, et c'est des sujets que je trouve passionnants, notamment les choix de vocables qui sont utilisés ou quoi. Et notamment, étonnamment, en étant à Sciences Po Grenoble, la politique est un domaine qui m'intéresse, enfin tous les enjeux liés aux politiques, les deux se rencontraient très facilement, communication et politique, et donc oui, dans le cadre de mes études, la communication politique m'intéresse beaucoup.
Pour apprendre à Emmanuel Macron à dire dans un discours « C'est notre projet !» C'est
justement, ça ce n'était pas maîtrisé, c'était un... l'hypothèse la plus probable est que ce n'était pas maîtrisé et que il a été dépassé par l'ampleur de... Parce qu'il s'est retrouvé, oui, dans une foule absolument énormissime, ce qui pour à peu près chacun est extrêmement déstabilisant, et donc il s'est laissé complètement emporter par son discours et le reste.
Et c'est ce qui explique notamment, une phrase difficile à dire, Bertrand Perrier dans une émission de Quotidien que je vous invite à regarder sur YouTube. On va à présent faire une petite pause musicale, si tu le veux bien, Mathis. Est-ce que tu peux annoncer aux auditeurs de News FM le titre de la chanson que tu as choisi de partager avec eux?
Alors, normalement, c'est 20 sur 20 de Kassem Wapalek.
Absolument, c'est celle que tu nous as dite et c'est celle donc que nous avons mis dans le cartoucheur. On écoute et on en reparle après. Cette fois-ci, on coupe bien les micros.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qui ce mec, c'est Kassem? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui ce mec, c'est Kassem? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui ce mec, c'est Kassem? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui ce mec? Peu d'écrivains survivent et j'écris vers sur verre, mais rassurez-vous, j'assure 20 sur 20, Kassem s'en revient pour vous servir, je virevolte et tu virevules, timing à vous que t'as aimé, non? Sans mentir, c'était mon tour, sauter mon tour, c'était me taire, et si me taire, c'était mentir, sauter mon tour, c'était mentir, c'est élémentaire, me demande pas ce que vous êtes en ma terre, cet amateur, c'était maintenant, c'était mon tour, soit cet homme a eu tort, soit c'était un menteur, je l'ai sauté mis à terre, boire à sa santé ma terre, mais sans grand sentiment, je jette un centimètre et pleure pour faire pousser sa pierre. Ton bal, pas mal. Le fond est fin, la foi fun et profond. Il prend forme, le flow prend feu, mais performe. Et la rime perfore, t'es hyper formé. Quand tu touches le fond, tu perds la forme, la ferme. On dirait que ton flow a la flemme. Ferme-la, tu peux pas fuir mes lignes ni faire le malin. C'est trop bien formulé. Mon flow va faire mal à toute la formule 1. Rapide et fort malin. J'ai même le sens de la formule 1. Même les mal, même les moules et les poules mouillent, les pouilles, les mômes, la femelle ou l'homo, la mamie, même les mots, même me l'ont dit, en moins mieux, mais l'on dit, ému ma mélodie, a même eu mal au dos, ré mi fa sol la si, ma rime est facile, à ma façon je l'assassine, et l'assassonne, alors je la laisse ainsi, c'est pas là ce sas ici, reste ici, nous on s'associe. Et 500 c'est Nancy, ainsi on s'en sort mieux. Et ça tue, c'est non. Mes dédicaces, des culs, non. Mes dédicaces, des culs, non plus. Mes dédicaces, casse des culs. Je dédicace à qui se diqueuse. Disque va se fourguer comme dédicace. À moitié pris, j'ai les mains moitié pris. Au pire, je me tiens prêt. Mais ce disque est risque, puisque ce disque disque. Ceux qui se disent qu'on se disent quand ils discutent. Sans long discours ni dispute. J'avais des rites avant d'avoir des spots. Ni mouton ni despote, je ne fais pas du hip-hop pour me faire des potes. Paraît que ça gagne juste assez pour se faire des pattes. Ça me fera les pieds et vu que ça te fait une belle jambe, ça devrait marcher. Mais le bruit court qu'on veut marcher, c'est la loi du marché. Rassure-toi, mon silence a un prix, mais il demeure cher. Et si ma parole est d'argent, je veux des disques d'or. Mais pour qu'un disque dure, faut pas qu'il disque dalle. Sinon le disque en d'or est dans ce cas dur et de ne pas chuter comme un cascadeur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Moi, je suis smack à flot cosmique. Chaque mot tape un smack à smike avec ou sans smic. Je reste intermittent du spectacle, un tourmenté qui spectème. Un artiste respectable, épreuve en esthète. Il y a du pain sur la table et moi je pète la dalle. N'importe quelle balance peut te le dire. Pourtant je reste des putes l'idole. Mon rap, tes potes l'adorent. Ils frappent, te pètent les dents. Qui sait, j'ai peut-être le don. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec, c'est Kassem? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec, c'est Kassem? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec, c'est Kassem? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec, c'est Kassem?
sommes de retour dans Open By. Vous êtes toujours sur News FM. Il est 20h30 maintenant, l'émission continue. Et toujours accompagné de Mathis Druel, le deuxième meilleur orateur de France. Tu as choisi de nous partager l'émission, la chanson de Kassem Wapalek, 20 sur 20. Pourquoi ce choix ?
Bonne question. Et ben en fait, c'est parce que c'est le premier discours, la première chanson où j'ai entendu autant d'allitérations, d'assonances ensemble. Et ça m'a vraiment émerveillé, cette capacité à chaque phrase, en fait, était avec toutes les sonorités qui se répétaient. Et j'étais émerveillé du début à la fin de cette chanson qui était composée quasiment que de jeux de mots, de jeux sur la langue et tout ça. Et donc, voilà, ça. C'est par là que j'ai commencé moi aussi à me mettre à jouer avec la langue de cette façon dans mes discours. Donc ça me semblait bien de vous proposer.
D'ailleurs, tu connais le titre de l'album dont est extrait la chanson ?
Non. Si, Fenêtre sur rue.
Non,
c'est pas ça.
Je vous salue, ma ruche.
Oui, pardon, je confonds avec.
C'est un jeu de mots qu'on n'expliquera pas parce qu'il est très évident.
Et même son nom est un jeu de mots en l'occurrence.
Ah bon ?
Puisqu'il s'appelle Kassem, mais Kassem Wapalek, c'est une abréviation pour dire Kassem Wapalek.
Ah!
Voilà, je ne dirai pas la fin, mais du coup.
Moi, je vais la dire, cassez-moi pas les couilles.
Voilà, on n'a pas peur de la censure ici.
C'est ça,
écoute,
c'est non censuré.
Vu le nombre d'auditeurs qu'on a, seulement 20 millions, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui nous échappent à première écoute et on va y revenir. Et ce qui, tu disais tout à l'heure, il y avait beaucoup d'allitérations, beaucoup de choses. Dans les concours d'éloquence, d'éloquentia, je pense notamment, tu es évalué par un jury d'experts qui est sensible à ces jeux de mots, à ces allitérations. À tous les efforts de style que tu peux faire. Oui. Dans quelle mesure est-ce que tu impliques le public dans la préparation de ton discours ?
Bonne question. Dans quelle mesure est-ce que je l'implique ? En fait, je le prends forcément en compte dans le doute où à chaque fois que j'écris un discours, il est fait pour être entendu. Donc, qu'importe la quantité d'auditeurs que je vais avoir, c'est toujours écrit pour être entendu. Donc, je ne sais pas exactement à quel point je l'implique, juste j'essaye de voir si ça sonne bien, en fait. Si quand je le dis à voix haute, y a, sur la sonorité, c'est intéressant et bah voilà, j'écris des textes qui sont faits pour être entendus. Après, à quel point je l'implique, ça dépend. Des fois, quand je sais que je vais avoir un public qui est très conciliant, comme par exemple c'est le cas avec les publics Eloquentia qui sont vraiment des super publics et avec lesquels on se sent extrêmement à l'aise. Oui, dans ce cas-là, des fois, je les prends en compte pour certaines interactions avec ou pour des fois où on demande des choses à faire avec le public. Et en fonction des publics, il y a des fois ça va marcher, des fois pas trop. Donc, je le prends en compte dans ce format-là. Mais sinon, oui, j'écris toujours pour être entendu plus qu'être lu.
En parlant de jeu de mots, en parlant d'allitération, il y a un humoriste qui est très, très fort dans ce domaine-là. Et parfois, c'est difficile à suivre pour certains et certaines. Extrait qui a été diffusé sur le plateau du supplément de Canal+, en 2013.
Je pris la direction du palais, en garde royale, un peu gelée. M'informa que le roi, sa femme et le petit prince étaient justement partis chez moi. N'ayant plus le temps de serrer la pince de monseigneur, je m'en...
Je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends.
C'est vrai, il a raison. Il a raison, j'aurais dû le faire en français.
C'est un peu aujourd'hui.
T'as reconnu Mathis ?
Oui, alors, dans les références que je ne trouvais pas tout à l'heure, dans les références humoristiques que j'apprécie énormément, il y a également Stéphane De Groot. De Groot et De Vos qui sont vraiment les deux grosses inspirations en termes de jeu avec la langue que j'adore plus que tout et dont justement j'ai les recueils de toutes ces chroniques dans le supplément qui sont vraiment des bijoux à lire et à relire parce qu'on redécouvre des jeux de mots à chaque fois qu'on les relit tellement c'est riche et chaque phrase, chaque mot est un jeu en soi et c'est génial.
C'est vrai que c'est très 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 riche et d'ailleurs là il était face à Nabila qui pour l'anecdote a écrit deux livres, donc il n'a pas écrit de chronique en absurdie mais qui a écrit deux livres qui se sont plutôt bien vendus, peut-être mieux vendus que Stéphane De Groot. Et c'est une transition rêvée pour parler du bail d'actu que tu as choisi d'aborder ce soir. Mathis, pour ton bail d'actu de la semaine, tu as choisi de nous parler de la saison des prix littéraires. Tu nous as envoyé un article du site de Libération titré « En 2019, le prix littéraire est décerné à un homme ». Est-ce que tu peux nous expliquer l'article ?
Alors, oui, totalement, en fait, c'est... C'est un peu ce qui est ressorti en ce moment là. C'était la saison où tous les prix littéraires sont sortis. Il y a eu le prix Renaudot, le prix Femina, je crois, le Goncourt, il me semble. Je suis plus exactement sûr
desquels. Voilà.
Donc c'est le moment où tous les gros prix littéraires sortent et ces prix littéraires orientent un petit peu les ventes des livres à cette période et sont super importants. Ça booste complètement les ventes des livres qui ont été primés. Et en fait, ce qui est ressorti cette année encore, c'est que c'est une majorité d'hommes. Il n'y avait pas encore c'était le prix Interallié qui manquait encore et le prix Interallié justement nommé une femme, mais tous les autres prix de cette année ont consacré des hommes et donc notamment voilà, il y a cet article de Libération qui est sorti et quelques associations féministes qui ont noté ça que les femmes sont, il y a davantage de femmes autrices qui sont publiées que d'hommes auteurs.
Ouais.
Et dans les prix, elles sont sous-représentées parce qu'elles sont moins de 15 ou 20%. Je sais plus
ça
si c'est 20%
ça dépend des 15%.
Concours,
c'est entre 10 et 15%. Et après, les concours, bah, typiquement le prix féminin, dont on, ouais, va raconter un petit peu la création après. Justement, qui lui a été attribué à un peu plus de femmes. Et le prix d'électrice de Elle, qui lui est à la parité un petit peu plus de. Qui offre un petit peu plus. Un petit peu plus de femmes. Tu lis des autrices, par exemple ?
Oui, et bah du coup, j'essaye désormais, notamment parce que j'avais un peu découvert ça l'année dernière à la même période. Et là, cette année, du coup, je m'en suis d'autant plus rendu compte. Et donc, oui, j'ai fait le choix. Enfin, j'essaye d'appliquer ça au maximum, de qu'un livre sur deux que j'achète soit un livre d'autrice. Parce que sinon, en fait, quand on suit les auteurs qu'on nous conseille comme des grands classiques ou les livres qui ont fonctionné ou quoi, on a quasiment que des auteurs des masculins dans les grands noms. Et donc, j'essaye d'avoir cette démarche de justement avoir des deux pour diversifier, parce qu'il n'y a pas de différence de talent littéraire entre les genres. Mais j'ai beaucoup d'autrices que j'aime énormément.
Une autrice à nous recommander
Alors, à recommander. En tout cas, qui moi me plaît et j'espère plaire aussi. En ce moment, j'aime beaucoup ce que fait Marguerite Duras, notamment dans la manière dont chacune de ses histoires est en fait une manière détournée de faire une partie de son autobiographie. Donc j'aime énormément son style.
Yes. Alors, est-ce que tu sais comment un livre devient un classique?
Alors, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a la recette, s'il peut me l'envoyer, comme ça je ne m'embête pas, j'applique cette recette. Mais je dirais que moi, c'est... bonne question. Pour que ça devienne un de mes classiques, je crois que c'est quelque chose qui... quand ça me plaît de façon assez intemporelle dans que justement pendant des années j'y trouve des choses extrêmement différentes et qu'en fonction des publics ça vient toucher des choses extrêmement différentes, et si ça c'est capable d'avoir une dimension aussi universelle, je pense que c'est une des raisons qui en fait des classiques. Après voilà, j'ai pas d'expertise particulière, et si quelqu'un est plus calé que moi là-dessus pour savoir qu'est-ce qui fait un classique, et peut, encore une fois je répète, si quelqu'un a la recette, je la prends toujours. Pour savoir comment faire un classique, je suis preneur.
Eh bien, ça tombe bien, parce que j'ai la recette.
Merveilleux.
que je vais partager avec toi. En tout cas, non, c'est pas ma recette à moi, mais c'est la recette d'un sociologue, Alain Viala, qui expliquait que pour qu'un livre devienne un classique, il y a quatre étapes. La première étape, et en fait, à chacune de ces quatre étapes, et c'est ça, on s'aperçoit que les femmes sont ou désavantagées ou qu'il y a un petit problème. La première de ces étapes, c'est la légitimation. Ça veut dire que le livre est publié. Et les autres auteurs se disent « Ah tiens, le livre qu'elle a publié, il est pas mal, il y a quelque chose, c'est un auteur qui est intéressant. » La reconnaissance par les pairs. Et en fait, déjà à ce niveau-là, on s'aperçoit que les femmes sont, historiquement, après, est-ce que c'est toujours pareil, hein, le chat et la souris, le serpent qui se mord la queue, qui sont cantonnées à des genres qui sont moins bien considérés. Par exemple, la littérature jeunesse, avec la Comtesse de Ségur ou J.K. Rowling, les romans policiers ou des romans qui sont considérés comme plus sentimentaux. Et là, ça, c'est la légitimation. Déjà, ça marche pas trop. Ensuite, l'émergence. C'est la deuxième étape. Ça, c'est quand la presse se dit, il y a la reconnaissance du public, la reconnaissance de la critique. Il y a quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui est différent. La presse va distinguer les livres. Et là, ça bloque encore. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques années aux États-Unis qui montrait que 80% des livres qui étaient chroniqués étaient des livres écrits par des hommes. Jean-Baptiste qui est circonspect.
Encore une fois, hein, ça revient.
Ensuite, après l'émergence, il y a la consécration. Là, c'est les prix littéraires, les prix Goncourt, les prix Femina, etc., etc. Et qui sont prix Goncourt, qui nourrissent également la presse, qui permettent, comme tu le dis, Mathis, d'avoir plus de succès, notamment octobre-novembre, parce que c'est bientôt les fêtes de Noël, n'est-ce pas ?
Exactement.
Les cadeaux sont déjà prêts ? Non, pas encore ?
Pas du tout. Ah, la procrastination, ce qu'on a dit en début d'émission.
On s'y retrouve en effet. Et puis les jurys sont notamment des jurys d'hommes, hein. Par exemple, le prix Renaudot, où il n'y a qu'une seule femme. Et parce que tout simplement, pour remplacer un juré d'un prix littéraire, il faut qu'il démissionne ou il faut qu'il meure.
Oui, c'est comme l'Académie française, ça met du temps à arriver.
C'est ça, ça met du temps à se renouveler. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire du prix Femina.
Non du tout, dis-moi,
je vais te la raconter.
Raconte-moi.
L'histoire du prix Femina, en fait, c'était l'année après la création du prix Goncourt. Il y avait une femme qui était censée gagner le prix Goncourt l'année suivante, qui s'appelle Myriam Marie, pour son livre La conquête de Jérusalem. Sauf que finalement, comme les hommes étaient, il y avait plus d'hommes, les hommes dans le jury, on dit non, finalement, non, on va le donner à un mec. Et il y avait même l'auteur Joris Karl Huysmans qui avait dit pas de jupon ici, hein, c'est le Goncourt. Hein. Il l'a peut-être pas dit sur ce ton-là, mais voilà l'idée.
L'idée était là.
Et du coup, il y a des autrices qui se sont opposées à ça et qui ont décidé de créer leur propre prix littéraire, le prix Vie Heureuse, qui est devenu par la suite le prix Femina. Et donc, une fois qu'on a passé la consécration, la troisième étape, il reste la quatrième étape qui est la perpétuation, où les auteurs sont étudiés dans les classes, à l'agrégation, donc le concours qui permet de devenir professeur et donc d'enseigner, les éditions type La Pléiade. Et là, ici aussi, ça manque de diversité, ça manque de diversité de ce point de vue-là.
Oui, complètement. Je me suis remis très récemment à vouloir lire justement ce qu'on appelle des classiques ou à essayer de retourner vers ce avec quoi j'avais été fâché quand j'étais au collège et au lycée. Et oui, c'était le constat que je m'étais fait également que dans tous les grands classiques qu'on a sont en grande majorité écrits par des hommes. Et donc, d'où ma démarche d'essayer de diversifier le genre des auteurs et autrices que je lis.
Alors, quand j'ai lu un petit peu sur le sujet, et je me suis aperçu aussi que... Alors, c'est un débat, typiquement, cette question-là, de faire étudier dans les classes des auteurs et des autrices à parité ou se rapprocher de la parité. Et il y a certains professeurs qui sont réticents parce que si on enseigne un livre écrit par une femme uniquement parce que c'est une femme, alors ça va la décrédibiliser et ça va... au contraire, ça sera contre-productif. T'en penses quoi, toi ?
Alors, c'est un sujet très épineux, mais en fait, ce qui ressort, la démarche, c'est de vouloir augmenter la représentation des femmes. Et donc, on ne les met pas là parce que ce sont des femmes, mais on les met là. Enfin, l'idée serait de les mettre là parce que elles sont talentueuses, leur œuvre doit être reconnue, et qu'elle l'a pas été parce qu'elles sont sous-représentées parce que femmes. Et donc, pour essayer de compenser ça, on représente davantage de femmes puisque jusqu'à ici, elles sont moins représentées parce que femmes, elles ont moins eu la possibilité de passer par tous ces stades justement que tu viens de nous énumérer pour devenir un classique.
Oui.
Et donc, d'avoir la démarche. Contraire à ce qui sociologiquement fait que les femmes se retrouvent moins ici. Donc oui, moi je suis plutôt en faveur. Bien évidemment qu'il ne faut pas mettre des femmes juste parce que ce sont des femmes, mais bien parce que leur œuvre a un intérêt à être étudiée et qu'il y a évidemment de la qualité dans le contenu, mais ça j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des femmes qui ont des œuvres de contenu qualitatif qu'il faudrait étudier.
Absolument. Mathilde,
J'ai une question ça, pour vous deux, pour le coup.
Oula, ça fait peur.
Est-ce que quand vous achetez un livre, est-ce que la première chose que vous regardez, c'est si l'auteur est un homme ou une femme ?
Mathis, réponds.
Alors, non, du tout. Vraiment pas du tout. Je regarde déjà si le livre m'accroche, mais après, j'ai des listes de lecture extrêmement longues. Et donc, en fait, si le livre m'accroche et m'intéresse, je le mets dans mes listes de lecture. Et au moment où je me dis, allez, tu peux craquer, tu peux t'acheter un nouveau livre, même si t'en as plein que tu n'as pas encore lu et que tu risques de ne pas lire ou de lire dans de trop nombreux mois. Là, dans ces moments-là, je regarde juste si, en ce moment, si j'ai lu davantage des livres écrits par des hommes ou par des femmes et ce que j'ai dans mes listes. Mais non, je regarde d'abord si le livre me plaît et c'est bien après, quand je dois choisir parmi toutes les œuvres, où je me dis, ah, j'aimerais bien lire, mais en même temps, je n'ai pas assez de temps ou pas assez de volonté, je ne passe pas assez de temps à lire. Donc oui, après coup, je regarde ça, mais ce n'est pas du tout la première chose que je regarde. Et vraiment, je ne lirai pas un mauvais livre ou un livre qui m'intéresse moins parce que c'est un livre de femme.
Est-ce que tu as remarqué une différence entre la manière dont écrivent les hommes et la manière dont écrivent les femmes, ou pas spécialement ?
Y a un point qui est revenu et qui a fait notamment que j'ai pris cette démarche de lire davantage de livres écrits par des femmes, c'est que les personnages féminins sont en général mieux écrits, ou pas forcément mieux écrits, mais ont des écritures qui sont intéressantes et plus différentes, parce que je me suis rendu compte que dans énormément d'ouvrages écrits par des hommes, les femmes sont quasiment tout le temps très sexualisées, ou vraiment beaucoup plus que dans des livres écrits par des femmes, et du coup ça permet d'avoir... Je déteste cette notion d'écriture plus féminine ou quoi, auquel je ne crois pas du tout. Mais le fait que les femmes soient racontées par des femmes est très intéressant parce que jusque-là, j'ai lu majoritairement des œuvres où j'avais des femmes racontées par des hommes et qui donnaient du coup pas du tout les mêmes cadres, les mêmes descriptifs et les mêmes ressentis. Et notamment, moi j'ai découvert ça par Marguerite Duras qui parlait des femmes et qui parlait de sa mère, qui parlait d'elle et du coup avec un point de vue beaucoup plus interne et qui dénotait complètement ce que j'avais eu l'occasion de lire jusque-là.
D'accord,
très bien. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, à moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à ajouter.
Non, c'est bon. Tout bon.
C'est bon. Eh bien, parfait, formidable. Ces prix concours, ces prix littéraires sont très importants parce que, à l'approche des fêtes de Noël, ce sont des livres qui vont se vendre beaucoup et qui vont donc permettre l'émergence et la légitimation de leurs auteurs. Et lorsqu'il s'agit de se vendre, je sais que tu n'es pas mauvais du tout, Mathilde. Il faut mettre le son suivant que je n'ai pas mis sur la fiche.
Mathis Druel est un jeune homme charmant, drôle, élégant, habile de sa langue et de son corps. Concours d'éloquence, mariage, enterrement, bar mitzvah, Mathis aura animé tous vos événements, faire rire et pleurer les grands comme les petits, avec un choix de blagues et d'idées assorti savamment. Vous souhaitez vous procurer un Mathis Druel ? Alors n'hésitez plus, téléphonez au 0800 51 51. 0800 51 51. Jeu sans obligation d'achat, valable uniquement en France métropolitaine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.mathis-druel.com. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
Apparemment, il n'a pas oublié son texte.
Non, je pense bien. Mais sur ce genre de format, comme je l'ai beaucoup, beaucoup répété, que c'est associé à un événement précis, une émotion, tout ça, du coup, c'est un cadre qui reste bien. Et oui, j'ai des textes, comme des bouts de textes qui, qui reste très bien, et donc notamment celui-là, oui, je suis encore capable de le ressortir tel quel. Et puis, j'aime bien, du coup, ça me fait beaucoup rire, parce que à sortir au quotidien, des fois, dans des cadres complètement absurdes ou quoi, avec des personnes, c'est toujours très rigolo, parce que du coup, tu veux faire ta blague, et en fait, t'as le bout de texte qui était déjà dans ta tête, et du coup, tu peux sortir ça. Bon, après, faut pas trop le répéter, sinon t'es la personne qui répète en permanence des blagues. C'est des blagues, mais il se vend lui-même, donc c'est terrible. D'ailleurs, ne soyez pas mon ami, je suis insupportable.
Mais si, il faut être ton ami, Mathis. D'ailleurs, dans un de tes discours, je me souviens, tu avais parlé de la définition d'une seconde. Est-ce que tu te souviens?
Oh, bonne question. Alors, je peux la tenter, je suis pas sûr de la réussir.
Vas-y.
Une seconde correspond à la durée de 9 998 766 961 période de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux, hyper fins de l'état de césium 133. Il y a eu 2-3 fautes dans le truc, mais alors, dans l'idée, je l'avais.
La transition des états hyper fins de l'atome de césium, absolument. Par contre, alors c'était 9 milliards, mais après, t'as dit n'importe quoi.
Oui, j'ai dit n'importe quoi. C'est toute l'astuce. J'ai plus le chiffre en tête, mais j'arrive à sortir un chiffre rapidement comme ça, donc je camoufle. Mais du coup, c'est un
coup de bluff, mais la définition elle était exacte et c'est seulement 9 192 631 770. Et si vous pensez que je l'ai appris par cœur, c'est que vous n'avez pas l'affiche devant moi.
Oui, c'est pas filmé, c'est l'avantage de la radio. Mais si, Amine, tu l'as appris par cœur, voyons.
Grand fou, va. Arrête. Certains ont pu remarquer que t'aimais bien inclure des références un petit peu olé-olé dans tes discours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est volontaire? Et si oui, pourquoi?
Alors, oui, effectivement, c'est vrai. Je l'ai un peu moins fait éloquentia que dans d'autres discours. Mais oui, c'est quelque chose que je fais, notamment parce que... c'est très facile de faire réagir le public ou les gens qui nous écoutent en parlant de ça, parce que comme il y a un aspect un petit peu tabou à parler de sexualité ou à sous-entendre des choses ou quoi, c'est super intéressant parce que ça peut faire rire très rapidement ou gêner très rapidement, et donc il y a des choses très intéressantes à parfois prendre une personne dans le public et à la fixer et à faire 2-3 phrases qui... La première intention n'est pas sexuelle, mais que tout le monde comprend avec une intention sexuelle. Donc la personne fixée est très gênée, mais tout le monde autour est hilar, et donc... Oui, c'est un mécanisme que j'aime beaucoup parce que c'est très facile et ça fait réagir très fort.
Et d'ailleurs, quand il s'agit de mettre les gens mal à l'aise, tu as aussi mis mal à l'aise Éric Piolle, que tu as tenté de pécho pour gagner un discours. Est-ce que c'est vrai?
Alors, le personnage que j'étais dans le discours, oui, racontait cela. Mais moi, à titre personnel, non, je n'ai pas fait ça.
Oui, parce que derrière, il faut savoir que la femme du maire n'était pas très contente. Mais en grand politicien, il a su lui répondre.
Dans la Constitution, maintenant, il y a un droit d'expérimentation.
Voilà, c'est sa réponse.
D'accord.
Une mauvaise foi. Ce fameux droit d'expérimentation.
Oui, bien sûr. Bien évidemment, enfin, le droit d'expérimentation.
C'est la Constitution. Quel conseil est-ce que tu donnerais le deuxième meilleur orateur du pays, si ce n'est plus que tu es, à quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise pour progresser à l'oral?
Alors, plutôt qu'avec cette étiquette de deuxième meilleur orateur de France, mais juste
ou
de
juste
personne qui voilà, aime bien s'exprimer et a réussi par ça à prendre davantage la parole et à s'exprimer davantage, juste se dire que... Bah, ce que tu vas dire, ça vaut le coup d'être entendu. Et je sais que t'as pas du tout confiance en ce que tu as écrit ou en ce que tu comptes dire, mais c'est le cas d'à peu près tout le monde. Et ceux qui sont très confiants dans ce qu'ils vont dire, la plupart du temps, c'est mauvais signe. Donc c'est normal et faut pas hésiter à se lancer, qu'importe ce qu'on a à dire, qu'importe comment on compte le dire. Si t'as jamais entendu quelqu'un parler comme tu vas le faire, c'est beaucoup plus bon signe que mauvais signe. Et il ne faut pas hésiter à faire ce pas, parce que vraiment, je connais peu de gens qui regrettent d'avoir oser passer ce cap.
Alors, une question un petit peu plus pour Mathilde et pour toi aussi, Mathis. Qu'est-ce que ça a apporté, l'éloquence? Mathilde, tu en as fait aussi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, je veux bien. Après, on va dire que je me suis retrouvée dans ce concours d'éloquence, entre guillemets, par hasard, parce que c'est Amélia qui m'a dit de m'inscrire dedans.
Amélia, ton amie?
Bien sûr, Amélia Boucher, que j'aime beaucoup. Et je fais un petit bisou. Voilà, mais ouais, du coup, c'était plus en soi pour la suite qu'autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir fait le théâtre et tout ça, qu'en fait, l'éloquence, c'était un peu une psychologie qu'on se faisait à soi-même, finalement. Que le discours que j'ai fait, en fait, je me le faisais à moi-même, mais sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte plus tard en relisant qu'en fait, je me parlais à moi-même. Et je pense, toi, Amine, peut-être, et toi, Mathis, aussi, la même chose.
Oui, complètement. Complètement, je te rejoins sur l'éloquence, c'est une espèce de grande psychothérapie gratuite.
Ouais.
Donc, oui, complètement.
Et ben, tu sais quoi, justement? Et effectivement, comme vous dites, il y a une dimension de libération dans la prise de parole en public. Et cette notion de psychothérapie, tu en as parlé dans le podcast L'Heure du Temps, réalisé par Ulysse Herriot. On t'écoute et on en parle après.
En fait, c'est une psychothérapie, mais en moins cher. C'est-à-dire que j'ai pas de psy à payer. Et en plus, au lieu d'avoir un psy, bah, j'en ai 10, 15, 20 ou plus encore en fonction de la capacité de la salle. Et donc, non, c'est chouette d'avoir l'opportunité comme ça de faire sa psychothérapie dans une salle bondée. Et oui, il y a un côté complètement exutoire et complètement catharsisique en fait.
Alors Mathis, de quoi est-ce que ça te libère?
Eh bien, beaucoup de choses. Si je pense là, si je reprends récemment, Mon discours de la finale Éloquence à Grenoble, j'ai parlé du fait que j'avais justement beaucoup d'anxiété sociale et je m'en suis servi pour en parler et expliquer comment est-ce que, avec la scène, j'ai essayé d'apprivoiser ça. Ou plus récemment encore, à la finale internationale d'Éloquentia, où j'ai fait mon coming out bi. Du coup, pour la première fois, j'ai dit publiquement que j'étais bisexuel, et notamment à une de mes petites sœurs qui ne le savait pas et mon père qui était dans la salle. Donc oui, c'est complètement... en tout cas, moi, c'est un moyen par lequel je sors des choses que je n'arrive pas à sortir autrement et qui, je l'espère, en parlant de moi, permettent de parler d'autres personnes et de toucher d'autres gens et faire écho et pousser d'autres personnes à prendre la parole et également à parler d'elles, à s'exprimer et à dire ce qu'elles ont du mal à dire.
Et justement, l'éloquence et la prise de parole en public peut permettre de grandes choses. Il y a une semaine, une nouvelle fusillade avait lieu dans un lycée du nord de la Californie. C'est une tragédie qui est devenue quasi quotidienne, malheureusement, aux États-Unis. Et Mathilde, ça t'a rappelé l'histoire d'Emma Gonzalez. Alors Emma Gonzalez, qui est-ce ? En février 2018, elle avait survécu à une fusillade de masse dans son lycée en Floride, à Parkland. Elle avait alors pris la parole au cours d'une manifestation contre la prolifération des armes à feu. Elle avait tenu un discours à la fois politique et sans doute aussi cathartique qui a marqué les esprits présents sur place.
6 minutes and about 20 seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered.
Je ne vais pas tout vous traduire, mais en substance, elle explique qu'en un peu plus de 6 minutes, 17 de ses amis lui ont été enlevés, 15 d'entre eux ont été blessés, et tout le monde, au sein de sa communauté, a été changé à tout jamais. Mathilde, l'histoire d'Emma Gonzalez t'a inspiré ton instant narration de ce soir. C'est à toi.
Les cours sont enfin finis. En tout cas, c'est de ce matin. J'ai tellement faim que mon ventre se met à se tordre dans l'intérieur. Je rejoins Jane pour qu'on prenne une table ensemble à la cafétéria. Le bruit commence à monter lorsque nous sommes rejoints par les autres étudiantes de notre université. L'ambiance est si conviviale et accueille des éclats de rire et des discussions très animées. Pendant que Jane m'explique en quoi son cours de sciences de ce matin n'avait rien de très passionnant, j'ai comme un flash et je me mets à stresser. J'ai le pressentiment que quelque chose de grave va se passer. J'ai quelques secondes d'absence que Jane remarque aussitôt. Tout autour de moi devient flou. Le temps se ralentit et j'entends lointain que Jane me parle. Ma vision retourne en salle de classe et je revois ce garçon assis au fond sur son téléphone. Il ne dit pas un mot et ne fréquente personne. Je soupçonne qu'il se fasse harceler par cette équipe de baseball de l'université. Tout cela avait sûrement dû le mener à fréquenter des sites peu recommandables. Mon esprit revient à la table où je suis assise. Je lève la tête, quitte le regard inquiet de Jane et me tourne instinctivement vers ce même garçon assis à l'angle de la salle. Il a un regard de bête. Il doit tous nous voir comme des prédateurs. Il aurait donc décidé que ce serait aujourd'hui son jour de vengeance. Je me lève de ma chaise. Il me repère aussitôt, du regard, et me dévisage l'air de dire: tu te rends compte que maintenant, pauvre fille, il fallait ouvrir les yeux un peu plus tôt. Le temps s'arrête entre nous deux et le reste de la salle. Il approche sa main de son sac de cours, l'ouvre et sort une arme. Il place son autre bras sur la table pour dissimuler sa main, tenant fermement le pistolet. Il le pointe dans ma direction. Il avait ce regard noir empli de haine qui me glaça le sang. Je sentis une larme couler. sur ma joue, malgré ma volonté de garder mon sang-froid. Un silence pesant s'installe entre nous. J'ai peur. Je ne peux plus bouger. Il va pas le faire. Arrête, ne commets pas l'irréparable. J'ai si peur. Non, ne fais pas ça. Je tremble. J'ouvre la bouche. La détonation retentit dans mes oreilles comme une acouphène. Je n'ose plus respirer. Je sens la balle frôler ma joue droite. Un corps tombe lourdement sur le sol à côté de mes pieds. Mes paupières tremblent, mes lèvres tremblent. Je le sais qui est par terre. Je ne veux pas voir la réalité. Je baisse les yeux, tourne la tête et vois Jane, dont le coup porté avait été efficace. Mon visage se déforme sous la douleur qui m'assaille dans tout mon corps. Les autres étudiants courent au ralenti autour de moi, se bousculent sur leur visage, la peur s'est imprimée. Certains effectuent leur dernier mouvement avant de rejoindre le sol. Les malheureux essayant de tirer les corps de leurs amis connaîtront le même sort. Je ne peux toujours pas bouger. J'ai peur, mais mon corps lâche et ma tête percute le sol. J'ouvre les yeux, les ambulanciers sont là. Les corps sont recouverts d'une couverture et alignés. On me prend en charge et je pars à l'hôpital duquel je ressors rapidement. Je passe alors 2 jours dans ma chambre, sans boire ni manger, à repenser sans arrêt à cette scène. On m'a demandé si je me sentais capable de parler au nom de ceux qui étaient décédés. J'ai dit oui. J'avais préparé mon discours sur un coup de tête avant de prendre le micro. Il y a 2 jours, dans cette même salle, à cette même heure, je vivais la 10e fusillade de masse aux États-Unis. Un étudiant a ouvert le feu sur 20 autres et en a blessé 5 autres. Je les qualifie autres parce que eux aussi étaient étudiants. J'ai décidé de m'exprimer aujourd'hui devant vous pour parler de 2 choses. La première est du rapport que nous entretenons avec la mort et la seconde sera pour repenser ensemble quelques instants demain. On vous a déjà dit que la mort faisait partie de la vie, qu'elle n'était qu'une étape de plus dans votre chemin. Cette vie si fragile qu'on peut facilement vous la retirer en 1 minute. Si fragile et si précieuse à la fois que chacun d'entre nous n'en possède qu'une. Ce bijou qui, s'il est retiré de votre cœur, crée un vide. Un vide qui nous tord l'estomac, nous serre le cœur, inonde nos yeux de larmes. Je sais pourquoi on nous dit qu'il est une étape de plus dans la vie. Et cela vaut autant pour vous que pour les victimes. Cela vous permet de grandir, de vous endurcir pour affronter les futures épreuves qui nécessitent un nouveau vous. Vous vous forgerez votre propre arme pour affronter vos futurs ennemis. Cela permet aux personnes à qui la vie a été retirée aussi de veiller sur vous d'une autre manière qu'ils le faisaient auparavant. En effet, ils obtiennent une place différente dans votre cœur. Ils restent à vos côtés, même si vous ne les voyez pas. Ils deviennent anges gardiens. Vous devenez chevalier de votre vie. Notre deuil prend une autre forme lorsque nous retrouvons peu à peu goût à la vie. Nous levons la tête et observons le soleil.
Nous baissons la tête et observons les fleurs. Ces choses auparavant sans intérêt à votre égard reviennent avec plus de sens. Le chemin de votre vie se retrace alors sous vos pieds. Parce qu'en effet, vous venez de surmonter l'étape la plus dure, qui est de se relever. Il est beau de garder le souvenir de ceux que nous avons aimés du fond de notre cœur. Et cela doit être nécessaire pour vous rappeler là d'où vous venez. L'évocation de leur nom provoquera sûrement un pincement au cœur, mais vous serez fiers de vous d'avoir surmonté cette épreuve et continuerez à honorer leur mémoire en continuant à avancer. Parce que, oui, il ne suffit pas de se relever pour ne rien faire ensuite. Honorer leur mémoire veut aussi dire que vous les rendiez fiers depuis là-haut en reprenant votre vie en main. N'oubliez pas que si des événements douloureux arrivent dans vos vies, c'est pour vous préparer à quelque chose de plus dur, mais qui nécessite un autre vous. Votre chemin de vie ne s'est jamais réellement effacé. Vous aviez simplement la vision par la douleur troublée. Sans que le souvenir de leur visage ne s'efface, dans votre cœur, la vie peu à peu retrouve place. Leur âme de leur corps est déjà partie à cet âge. Mais dans leur drame, votre esprit se trouvera plus sage. De cette journée, nous nous souviendrons. La mémoire des victimes, aujourd'hui, nous honorons.
Merci Mathilde pour cet instant narration. Très fort, très triste. Mais qui donne malgré tout un peu d'espoir à la fin. Vraiment cette notion là de
c'était le but.
Reprendre sa vie en main. Donc, Mathis, est-ce que tu as une réaction?
Compliqué, mais ça, forcément, c'est
évidemment
très difficile vu le contexte, la situation. Mais oui, le montre encore une fois à quel point, juste là, c'est une personne qui visiblement n'avait très peu ou jamais pris la parole avant, comme elle le disait, et qui a écrit ce discours une minute avant, une heure avant de monter sur scène pour ça. Et ce discours est devenu extrêmement viral. Là, du coup, tu nous l'as redit, et il est très puissant, alors que Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup parlé avant ou d'avoir beaucoup appris pour être capable de faire un discours qui est important et qui transmet des choses très fortes.
Mmh. Absolument. Mathilde, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Mathis?
Non, déjà merci de faire une critique positive là-dessus. Et après, c'est vrai que c'était un sujet délicat parce qu'encore le sujet de la semaine dernière, c'est un sujet aussi délicat. Mais là, disons que je me sens plus concernée étant donné que je suis étudiante aussi. Et que c'est une scène qui se déroule dans un contexte que je connais, entre guillemets. Donc c'est vrai que écrire cet instant narration, je peux pas dire que c'était compliqué, mais c'est vrai que l'émotion y était naturellement. En fait, j'ai pas eu besoin de me forcer pour écrire ça, c'est venu assez naturellement. En fait.
Avec beaucoup d'empathie, effectivement, pour ces étudiants américains qui subissent des fusillades quasi quotidiennes. Est-ce que, Mathis, est-ce que tu défends des causes dans tes discours? Est-ce que tu t'engages dans tes discours, ou même aussi peut-être dans le seul en scène que tu nous prépares?
Alors, oui, plus ou moins, de par le fait que je parle de moi et que donc je me révèle sur certaines choses, notamment sur ma bisexualité, et où j'avais fait mon discours du coup pour la tolérance, vu que c'était le sujet qu'on m'avait donné, mais qui m'avait permis de l'étendre, et notamment... contre l'homophobie, et surtout pour pousser les personnes à s'engager contre ça, mais par des petites actions quotidiennes, juste par le fait de dénoncer systématiquement l'homophobie, ou par exemple ce fameux oncle homophobe qu'on a tous dans un repas de famille, juste de lui faire remarquer que ces blagues ne sont pas drôles et qu'elles sont problématiques, et par des petites actions comme ça. Donc oui, forcément je m'engage. Je sais pas si j'ai une grande cause sur laquelle je m'engage particulièrement.
Non, bien sûr.
Que je ne sache pas, montre que j'en ai pas une en particulier, mais oui, j'essaye de m'engager.
Et t'as le sentiment de prendre des risques par rapport à ça? Après, voilà, je pense que l'engagement contre l'homophobie, contre les discriminations, c'est quelque chose qui, heureusement, aujourd'hui, est assez partagé, je l'espère, en tout cas. Pas suffisamment, mais...
J'ai la chance d'être en France, et donc d'être plutôt... C'est peu clivant de dire que l'homophobie, c'est pas bien en France. Donc, ça va. Non, j'ai pas énormément l'impression de prendre de risques, plus de... Aussi parce que j'ai la chance d'avoir un entourage qui là-dessus est...
Plus ouvert,
et, voilà, plus ouvert, très safe à ce niveau-là, donc... J'ai cette chance-là, et j'ai la chance aussi d'avoir d'être dans des cadres. Voilà, moi, mon existence, par exemple, est très peu mise en danger par le fait que je suis bisexuel, donc j'ai cette chance-là. Est-ce que je prends des risques après? Peut-être, ça reste jamais facile de, par exemple, faire son coming out, mais Oui, non, je sais pas, je prends pas
bien
trop
sûr,
en compte
dans les thèmes dont tu peux parler, ou peut-être par rapport à des sujets peut-être plus politiques, peut-être, je sais pas, sur les impôts, sur des autres choses comme ça.
Oui, alors en vrai,
je sais pas, je pose la question.
Ouais, non, mais j'ai toujours essayé d'être de faire des saltos arrière pour éviter ces sujets politiques, oui. Où je savais que justement ça pouvait diviser, parce que c'était rarement mon but à l'éloquence d'arriver et d'avoir de m'engager en divisant franchement, où j'ai des opinions politiques, mais je préférais éviter parce que notamment c'est pas là où je me sens le plus à l'aise quand je parle, donc j'évite en général.
Ok, très bien. Je vois Mathilde qui me regarde parce qu'elle voit que le temps passe et qu'il est déjà 21h08, soit 20 minutes de plus que la durée qu'on est censé faire. Et comme Mathilde est un invité absolument passionnant, on est heureux de prendre cette liberté avec l'antenne de News FM.
Bien, merci beaucoup.
Farid, si tu nous écoutes, pardonne-nous s'il te plaît. Et comme la semaine dernière, nous avons une annonce importante à faire. Les amis, nous avons encore besoin de vous pour une mission capitale. Oui, je répète le même texte que la semaine dernière. Et alors, dès la semaine dernière, vous pourrez devenir chroniqueur un soir dans l'émission Open By et partager ainsi la soirée avec nous et notre invité. Les horaires sont assez variables. Vous avez un coup de cœur, un kiff, une passion décalée. Vous aimez, je sais pas, le nouvel album de Soul King, la future pièce de théâtre de Mathis Druel. Venez nous en parler. Alors les seules règles, comme d'habitude, hein, pas de publicité, on n'est pas là pour ça, pas de politique, on n'est pas là pour ça non plus. Vous habitez sur Grenoble, dans ce cas, contactez-nous par email ou suivez notre Instagram, @openby, l'adresse email est sur le site internet de News FM. Partagez-nous le sujet de votre bail de la semaine, si ça nous plaît, si ça plaît aux pontes de la direction de la radio, plus de 800 000 personnes, il faut le savoir, c'est l'armée mexicaine. Alors vous viendrez partager l'émission avec nous, jeudi prochain, à nos côtés. Mathis, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Dans le podcast L'Or du Temps, du Lissarion et Rio, quand on t'avait demandé le mot de la fin, tu avais répondu ceci.
S'il ne faut choisir qu'un dernier mot, ce sera celui-ci. Bill Bokeh.
Avant de conclure l'émission, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Eh bien, je répondrai déjà « parce que ». Et ensuite, j'irai même plus loin en disant j'ai toujours du mal avec ces formules-là qui me semblent très absurdes. Et un objet que je trouve particulièrement absurde dans son but... c'est le Bill Bokeh, et c'est vraiment quelque chose de récurrent chez moi, la blague et toutes les idées autour du Bill Bokeh, notamment parce que quand on dit un mot, c'est Bill Bokeh qui me vient, et à force c'est devenu, voilà, ça s'est auto-entretenu. Et donc là, quand je me suis retrouvé à devoir avoir le mot de la fin et que je n'avais pas d'idée de ce que je voulais dire, c'est voilà ce mot-là qui m'est venu, et je me suis dit finir sur une note absurde, c'est pas plus mal.
Et bien dans ce cas, nous finissons sur cette note absurde. Générique, Mathilde. L'émission touche déjà à sa fin. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
Un très bon moment.
Formidable. Merci Mathilde, tu as passé un bon moment aussi.
Un très bon moment. Merci à Mathis d'être venu en tout cas.
Merci à vous de l'invitation.
Merci, hein. Merci également à toutes les équipes de News FM, Farid, Christophe, Binge, Émeric, Kefren, Sam et j'en oublie, hein, pour leurs encouragements, leur bienveillance. Merci à vous, les auditeurs, pour votre confiance. Peut-être y en a-t-il qui nous écoutent et qui ne sont ni nos amis ni nos familles, auquel cas on vous embrasse aussi. On essaye de faire de très très belles choses pour vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 20h, Inch'Allah, avec de très très belles choses. Vous avez des petites dédicaces à faire ou pas? On en profite.
On peut faire une dédicace à Efra.
Évidemment, Efra qui est actuellement en concert, qui était notre invité la semaine dernière, et qui est ce soir en concert à l'Aquarium. Pour lui, il y aura le replay sur le site de News FM. Mathis, un petit mot?
Oui, bah, j'allais dire pareil, un mot sur Ephrasis, et je suis très frustré que du coup je n'ai pas de replay de son concert à lui. Mais il faut que j'aille le voir, donc oui, pareil sur Ephrasis, j'allais dire pareil.
Eh bien, il sera la semaine prochaine en concert à Vienne, si tu as le courage d'y aller. Et je veux juste dire un petit mot, je veux juste embrasser ma famille, mes amis, Mariam, que amis, tout le monde. Et puis, je vous donne rendez-vous, Antoine aussi, et puis je vous donne rendez-vous avec Mathilde la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.